下，哎。
L'émission transmettée Picouille. Féminisme, sexu, militance.
Le troisième mercredi du mois à 18h en direct sur Radio Primitive.
L'émission Transpd Bigouine, mais pour tout le monde. DKR.
Ça sature hein, quand même hein, ce générique.
Non mais je veux dire, non, c'était pas le bon. C'était pas le bon.
C'était peut-être pas le bon.
C'est jamais le bon.
C'est jamais le bon. C'est toujours Daikiri par contre, à 18h, le troisième mercredi du mois. Bonjour à tous les auditeuristes qui nous écoutent. On est au complet. Aujourd'hui.
Ouais. Il y a plein de monde dans le studio.
Oui, on est au complet et avec tout plein de monde qui viennent représenter le planning familial de la Marne. Bonjour à toutes.
Bonjour.
On va parler, on vous a invité aujourd'hui parce que vous avez tout plein d'actu à venir, notamment au mois de mars. On va avoir le temps d'éplucher un petit peu toutes ces actualités. Vous allez même nous lire des textes parce qu'il y a des expos qui se préparent, il y a des manifs, il y a plein de choses. Donc on va aborder tout cela pendant une heure.
Exactement.
Avec vous, entrecoupé évidemment de musique, de grands crus.
Choisi avec amour,
voilà,
toujours.
Tout à fait.
Parce qu'en plus on est en février, donc c'est le mois de l'amour.
Ah oui.
Bon, mars vrai. Aussi, c'est le mois de l'amour. Enfin, tous les mois, c'est le mois de l'amour.
C'est les mois de l'amour. Qu'est-ce que... Et on se fait une petite présentation quand même pour débuter, peut-être pas individuelle, puisque vous êtes venues nombreuses pour représenter le planning familial. Peut-être, est-ce qu'on on peut rappeler peut-être en guise de présentation en quoi le planning familial est différent du centre de planification, puisque a priori il y a pas mal de gens qui viennent vous voir en local, qui font un peu l'erreur entre les deux. Qui est-ce qui veut bien se lancer pour nous expliquer tout ça?
Oui, tout à fait. Du coup, nous, le planning familial à Reims, on a un EVARS, donc c'est un espace de vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc on est situé rue du Barbâtre, à la maison de la vie associative, et c'est un endroit d'échange en fait et de discussion où on peut parler de sexualité, d'avortement, de contraception, de discrimination de genre, etc. Mais par contre on n'a pas d'équipe médicale, et c'est là que ça va être la différence avec le centre de santé sexuelle ou centre de planification, ça c'est l'ancien nom, qui lui se trouve à Reims à l'hôpital Maison Blanche et qui est composé du coup de gynécologues, de sages-femmes, de conseillères conjugales, et elles peuvent prescrire pour le coup la contraception et réaliser les avortements. Donc la différence vraiment entre nous deux, c'est que nous on est plus un lieu d'échange, de militantisme avec des valeurs féministes, etc. qu'on défend au quotidien, alors que le centre de planification à l'hôpital est plus sur le côté médical.
Mais vous travaillez ensemble?
Tout à fait, on travaille ensemble et c'est une chouette équipe, on a des bons retours. On sait qu'elles accueillent les femmes et les hommes et les personnes non-binaires, enfin tout type de personnes, avec bienveillance, sans jugement et toujours avec consentement quand il y a des actes médicaux qui sont réalisés. Toujours le consentement du patient est demandé.
Chouette.
Donc vous travaillez en complémentarité, mais ça nous permet peut-être aussi de rappeler peut-être rapidement vos missions au planning familial. On sait qu'il y a des permanences que vous tenez, les gens peuvent venir vous voir, mais il y a peut-être des missions qu'on connaît moins ou que le public, en tout cas, connaît moins. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques-unes?
Oui, du coup, on va avoir plusieurs champs d'action. Donc le premier, comme tu l'as dit, il y a des permanences où on peut accueillir les gens. Ça, c'est les mardis soirs de 18h30 à 19h30 et les mercredis de 15h à 17h, où là, on peut donner une écoute, un accompagnement, on donne des tests de grossesse, on donne des protections périodiques, donc serviettes et tampons, et on donne des préservatifs internes et externes. Et on peut également faire de l'accompagnement pour les personnes mineures et qui souhaitent avorter et qui n'ont pas de référent majeur, où on peut les accompagner justement au centre de santé sexuelle à Maison Blanche. Et ça, donc, c'est tout ce qui va se passer pendant les temps de permanence. Sinon, on fait également beaucoup de prévention et d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc dans plein d'établissements, des collèges, des lycées, des IME, des foyers de travailleurs, des structures sociales, en fait, tous les publics de tout âge et de tout genre. Et enfin, le dernier champ d'action, ça va être plus du militantisme pur et dur, on va dire, avec la participation à des manifestations, la tenue de stands, des projections parfois au cinéma, des clubs de lecture féministe, ce genre de choses.
Plein de choses.
Une nébuleuse de choses.
Ouais, plein de choses qu'on espère qui vont durer dans le temps. Et qu'on va continuer à pouvoir voir, je pense, à vos interventions en milieu scolaire où tout de suite, quand on vient parler, mettre des mots sur certaines choses, on est aussi embêté aussi un petit peu. J'ai peur de plus en plus. Je vous propose qu'on commence en musique. C'est un moment qu'on a retardé un petit peu, mais pour au moins avoir votre petite présentation. Et puis ensuite, on parlera de tout ce qui va se mettre en place cette année, parce que c'est une année un peu particulière pour le planning familial, et pas que le planning familial de la Marne. D'ailleurs, c'est vos 70 ans. Happy
joyeux
birthday.
Anniversaire.
Voilà. Joyeux anniversaire.
Pour fêter ça, Gwen, tu nous as préparé un petit morceau.
Ah, moi, j'ai mis une chanson du Love. Alors, elle n'est pas toute jeune, mais je trouvais ça rigolo. Elle m'a fait beaucoup rire. Je fais une dédicace à la personne qui me l'a fait écouter il n'y a pas longtemps. Et voilà. Mais apparemment, tu disais qu'on avait déjà passé. Mais j'ai une petite mémoire, peut-être.
Ou alors, on l'avait et on n'a pas eu le temps de la passer. Parce que ça arrive régulièrement, ça dans Daikiri, qu'on a plein de musique qu'on ne passe pas.
Alors, ce n'est pas forcément lesbien, mais c'est une chanson où toutes les paroles pourront aller pour toutes les lesbiennes du monde.
Ok, on teste. Ça s'appelle
Foufoun. Et l'artiste, c'est Manar.
Mara.
I love Caesar.
Mara.
Foufoun. 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 Dans ta bouche. Foufoun. Dans ta bouche, foufoune. Dans ta bouche, foufoune. Dans ta bouche, foufoune. Foufoune. Tu parles trop. Foufoune dans ta bouche. Sous le bureau. Foufoune dans ta bouche. T'es accro. Foufoune dans ta bouche. Je fais taro. Foufoune dans ta bouche.
Moi je fais mes bails tranquilles, je demande rien à personne. Je fais mes bails tranquilles, je demande rien à personne.
Toi t'es en défensive et t'as le seum. Ah ouh.
Wine point de coquille.
Foufoune dans ta bouche.
Foufoune dans ta bouche.
Foufoune dans ta bouche.
Foufoune dans ta bouche.
Foufoune.
Chat, 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 miaou. Chat, 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 miaou.
Présent sur tous les rentés, on fait pas que de la trap, trap. Ambiancé, on aime quand le boutique clap, clap. Nous arrêter, mais t'es qui toi, on se tape, tape. Ah ouais, à skip, y'en a qui veulent se frappe, frappe. Ça fait comme Booba et Karis. Sur le ring, coup de boule, c'est Gadrus. Ring, ring, voilà la police, stop.
Wine point de coquille.
Foufoune dans ta bouche.
Foufoune dans ta bouche.
Foufoune dans ta bouche.
Foufoune dans ta bouche.
Foufoune.
Ouais dans ta bouche.
Foufoune.
Ah bah non, pas 30 secondes, hein. Il disait 30 secondes, mais non, ce n'était pas ça. Nous recevons avec grand plaisir le planning familial aujourd'hui dans Daikiri. On parle d'un birthday, d'un happy birthday du planning familial, et on va causer de ce que vous organisez en local. Il va se passer plein de choses. Comment vous l'avez abordé déjà cet anniversaire?
De lutte.
C'est,
C'est vrai, c'est 70 ans de lutte. Alors du coup, on a réfléchi parce que le planning est né en 1956. Et pour ces 70 ans, on a cherché ce qu'on pourrait bien proposer. Et donc, on est parti sur l'idée de demander, enfin de chercher des témoignages de personnes diverses pour visibiliser la pluralité des vécus et du coup, comprendre ce que le féminisme a apporté ou apporte encore au quotidien. Et du coup, la question générale, on va dire, c'était qu'est-ce que le féminisme a changé dans ta vie ?
Et ensuite, question large.
Et ensuite, on a regardé un petit peu les réponses qu'on a eues. Donc, on est presque à 70 témoignages. Si jamais vous voulez aller témoigner, le lien est sur les réseaux sociaux et notamment sur l'Instagram du Planning Familial 51. Et il semblerait que nos répondantes soient pour les plus jeunes de 20 ans et pour les plus âgés de 90. Donc, merci à la modernité de nous avoir permis de rencontrer... des personnes d'âge aussi divers.
Ça fait un beau panel.
Ça fait un joli
Comment
panel.
Vous avez procédé pour recueillir ces témoignages ? Vous avez été diffé ? Vous avez été à la rencontre des publics et leur proposer directement ? Comment ça s'est passé en fait ?
Du coup, on a proposé un questionnaire en ligne en se disant que c'était une façon relativement accessible de, d'avoir des retours de personnes qui ne soient pas uniquement sur Reims, puisqu'on est pour la plupart en tout cas sur Reims. Et on a proposé de pouvoir se rencontrer et potentiellement enregistrer ou écrire pour les personnes qui n'étaient pas à l'aise avec l'outil numérique. Et finalement, la majeure partie des témoignages est quand même passée par les questionnaires. Et on a eu quelques témoignages par justement des personnes qui sont allées à la rencontre.
Chouette, chouette. Très bien. T'as un résultat qu'on va pouvoir découvrir. Comment, dans quel cadre ?
Sous quelle forme, oui,
c'est ça la question. Sous quelle forme, comment, parlez-nous de ça ?
Alors du coup, ça se passera donc sous la forme d'une exposition qui commence à la cartonnerie et qui ira ensuite voyager jusqu'à la maison de la vie associative, donc où est implanté le local du planning familial. Et donc cette exposition, ça va être tous les témoignages remis en forme pour plus de lisibilité, accompagnés d'une frise historique pour remettre en perspective ce que le féminisme a changé dans la vie contemporaine.
Parce qu'ils devaient répondre à l'instant T, ce que ça a changé pour vous. On pouvait le remettre en contexte, par exemple, en 1970, le féminisme a changé ça pour moi, quoi.
C'était possible, effectivement.
D'accord.
Et ça, c'est dans le questionnaire. Il y a un papier libre ou une aide avec des dates un peu fondamentales.
Oui, c'est ça. Et les personnes, elles ont répondu soit ce qu'elles ont vécu à l'époque. Il y a des personnes, par exemple, qui ont dit « Moi, à l'époque, j'ai fait des avortements clandestins avant que la loi passe. » Et d'autres personnes qui répondent plus ce que ça change pour elles actuellement. Je ne sais pas, en disant que, je sais pas, dans les études scientifiques, par exemple, elles ont trouvé leur place, alors que c'est majoritairement masculin, elles sont la seule fille de leur classe, ce genre de choses. Mais du coup, oui, c'est soit des luttes passées, comment elles se sont investies dedans, ou soit actuellement, quelles sont les répercussions du féminisme et comment ça a amélioré la vie de chacun, chacune.
Alors, on se doute que c'est pour célébrer aussi les avancées qu'ont permis les féminismes. C'est pas un peu triste de voir tout le temps justifier que le féminisme a une importance dans notre société, enfin, que les féminismes ont une importance dans notre société. C'est vrai que c'est quand même un constat que je trouve difficile, quoi, au travers de tout ça. Mais on a quand même très, très hâte de voir cette exposition. Et puis, la cartonnerie, c'est où ? Ça sera dans le Flore ?
Oui, c'est ça. C'est le vernissage est le 10 mars. Donc lors d'un mardi du Flore, il y a l'exposition, ça débute à 18h30. Et ensuite, il y a la scène musicale avec des personnes féminines et minorités de genre.
Donc vous faites l'introduction à cette soirée et puis il y aura une présentation de cela. Et d'accord. Donc à quand s'arrêteront les participations ? Parce que vous avez mentionné que les gens qui nous écoutent peuvent aussi venir ajouter leur petit témoignage à tout ça. Est-ce qu'il y a une date limite, par exemple ?
Oui, si vous voulez participer, il faut se dépêcher. On va clôturer les réponses à la fin de semaine, le temps de pouvoir faire les impressions, etc. Parce que le 10 mars, le jour du vernissage, ça approche assez vite. Donc si jamais vous voulez amener votre pierre à l'édifice, faut se dépêcher.
Le but, c'est qu'il y ait le plus de diversité, j'imagine, dans aussi les témoignages.
Là, il y a déjà un beau panel.
Oui,
au niveau des âges, tout ça, déjà, ça, c'est chouette. Ça.
Effectivement. Alors là, si jamais les personnes entre 40 et 50 ans se disent « Oh, il y a sûrement beaucoup de réponses », la réponse est non. C'est la tranche d'âge la moins représentée. Donc, si vous avez 41 ans, il est temps de faire votre petit témoignage. On vous attend. Non,
c'est le creux qu'on a vécu où il n'y avait pas de militants et on était toutes seules. On était les jeunes pendant 15 ans.
Ah oui, c'est ça.
Moi-même, je sais.
Toi-même, tu sais. Vous avez mentionné qu'elle voyagerait, cette expo. Elle peut voyager sous différentes formes, puisque les lieux d'accueil ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce qu'on y retrouvera les mêmes témoignages? Comment ça va se passer, ce petit cheminement d'exposition?
Oui, le but, c'est que, en fait, on est une association départementale, donc c'est que ça puisse voyager dans toute la Marne. Donc actuellement, premièrement, ça va débuter à la cartonnerie, ensuite à se retrouver à la maison de la vie associative, et là, on est encore en recherche de lieux qui veulent bien accueillir cette exposition. Donc il y a les bibliothèques universitaires qu'on a pu contacter et qui seraient partantes pour l'accueillir et répartir du coup ces 70 témoignages sur les 3 sites universitaire, donc c'est-à-dire que l'exposition elle sera divisée en 3. Donc on peut imaginer ça, en fait ça va dépendre de la place, des lieux qui nous accueillent, soit on donne les 70 témoignages, soit on peut en sélectionner, c'est à voir avec les structures.
Super, vous nous avez ramené des petits témoignages, justement, extraits de cette expo, que vous allez mettre en voix pour les auditeurs de Radio Primitive. Est-ce que vous voulez bien qu'on commence à en lire quelques extraits en prenant notre temps?
Celui de Pierrette, par exemple.
Allons-y.
Qui a 90 ans aujourd'hui. Donc, à 21 ans, en 56, là, je dis comme a dit Pierrette, hein, j'ai eu une grossesse non désirée et sans moyens pécuniaires pour chercher à avorter. J'avais pas de contraception, c'était interdit à l'époque. Il n'était pas question que j'arrête mes études. J'ai donc dû avoir cet enfant que j'ai souvent fait garder par ma famille ou mes amis pour continuer mes études. Je me suis également mariée avec le père de l'enfant. Mes parents, bien que laïcs, ont vu d'un bon œil cette union afin que je ne sois pas fille-mère, mal vue à l'époque. Plus tard, j'ai eu un diaphragme, puis une pilule qui me faisait mal au ventre. À l'époque, on était obsédés par le fait de pouvoir tomber enceinte. J'ai divorcé peu après. J'ai avorté beaucoup plus tard, en 63, lorsque je suis de nouveau tombée enceinte avec l'accord de mon nouveau compagnon. Un médecin m'a posé une sonde qui est tombée toute seule. Il a fallu faire poser une nouvelle sonde et repayer. Je ne me rappelle plus du coup, mais c'était cher pour l'époque. La nuit suivante, je pissais le sang. Il a fallu venir à l'hôpital de Reims qui se trouvait à 1h30 de chez moi, j'étais à Cézanne, en urgence pour voir un gynéco qu'une amie connaissait. Il était très catholique, m'a fait la morale et m'a fait lambiner avant de me faire un curetage. J'ai failli m'évanouir. J'ai participé plus tard à la création de la commission femmes du SNES, un syndicat de profs, à l'association Assez Vif, l'association contre les violences infligées aux femmes, avec la déléguée aux droits des femmes de la Marne qui était Marie-Ange Petit.
Quel témoignage, justement, de rien que le redonner l'accord, de pouvoir faire un avortement, ça nous ramène aussi à des temps. Merci beaucoup pour ce premier témoignage.
Ça a permis quand même des grosses avancées et qu'il ne faut pas qu'on les perde, surtout.
Oui, la question, c'est toujours continuer à lutter pour ne pas que faire 3 pas en arrière, parce qu'on sait que ça peut aller très, très vite. Un autre témoignage que vous voudriez nous partager ce soir?
Moi, j'aimerais vous lire le témoignage de Jeanne, 77 ans. Quand j'étais adolescente, j'étais révoltée d'être une fille. Aujourd'hui, j'ai 77 ans. Sans doute, la génération actuelle ne sait pas trop à quel point l'éducation que l'on donnait aux filles dans les années 50 et 60 était tout à la fois stupide et étouffante. Surtout si on habitait dans un village. On, c'est-à-dire les mères, la famille, les voisines, le curé, la pension, l'école, nous surveillait. On nous sous-estimait et on nous limitait. On se méfiait de nos désirs, on se moquait de notre envie de vivre libre et autonome. On nous maintenait dans l'ignorance de tout ce qui concernait la sexualité, la transformation du corps, les règles, voir un corps masculin, comment on faisait les bébés, comment ils sortaient du ventre. Je ne l'ai appris, et mal appris, que par bribes, par des amis, qui n'en savaient pas plus que moi finalement. Pas question de sortir avec des amis librement, et encore moins avec des garçons. Si cela arrivait, des menaces d'enfermement ou de punition tombaient. N'oubliez pas que la mixité n'a été mise en place dans les lycées que peu de temps avant 68. Leur argument était que nous étions à protéger, alors qu'en réalité, c'était eux qui le protégeaient. Leur étroitesse d'esprit, leurs préjugés, leur réputation et leurs lois napoléoliennes, Il souhaitait les tenir. Femme au foyer à élever les gosses, c'était le moule dans lequel on voulait nous maintenir. Beaucoup de femmes, sans doute, n'étaient pas d'accord avec cette vision. Mais quand elles devenaient mères, la pression sociale les forçait au contrôle strict de leurs filles. Comme à l'époque, la contraception n'était pas encore possible. Le plus grand danger était que la fille devienne une fille-mère, une dévergondée, une pute. Car elle engageait l'honneur de toute la famille. Ce que je ne supportais pas, c'était qu'il n'y avait pas d'égalité avec les garçons. Garçons et filles n'avaient pas les mêmes possibilités, pas les mêmes fonctions, pas les mêmes droits. Nous ne pouvions pas non plus avoir les mêmes ambitions. Par exemple, jamais mon frère n'a fait la vaisselle, la cuisine ou le ménage chez mes parents. Cela aurait été une honte. Jamais une fille n'aurait pu être enfant de cœur à l'église. Ne vous moquez pas, c'était mon rêve de gamine à l'époque. Qui avait le droit de jouer au foot et qui se contentait de regarder ? Qui se faisait traiter d'idiote quand on disait ne rien attendre du mariage ? À qui on haussait les épaules quand on revendiquait le droit des femmes à vouloir devenir pompière, chirurgienne, pilote d'avion ou ingénieur ? Et le droit des hommes à être infirmier ou danseur ? Pourquoi mes parents n'ont-ils payé d'études qu'à mon frère ? Il n'était pas question de régler ici des histoires de famille, c'était comme ça dans beaucoup d'autres familles, mais de témoigner que les révoltes de 68, le mouvement des femmes et les organisations de lutte étaient nécessaires et ont été une entreprise de libération. Moi, mon engagement sur la question des femmes s'est fait principalement sur le problème de l'avortement. J'ai eu la chance de rencontrer une des organisations qui, avant la loi Veil, a pris l'initiative de pratiquer des avortements clandestins. À Reims, j'étais au GICA, groupe d'information sur la contraception et l'avortement. Des médecins ou des étudiants en médecine ont appris à celles et ceux qui voulaient militer pour cette cause à pratiquer des avortements par aspiration sous anesthésie, selon la méthode Karman. Bien sûr, gratuitement, bénévolement. Nous expliquions aux femmes qui faisaient cette demande notre engagement et notre méthode. L'avortement se faisait le plus souvent chez elles, par là ou le médecin, ou un autre militant ou une autre militante. Nous étions en général un petit groupe de 2 ou 3 personnes et nous n'avons jamais eu de problèmes médicaux. Personnellement, j'ai participé à 4 ou 5 avortements. Nous avons arrêté quand la loi Veil passait. Souvent, les médias glorifient Simone Veil en disant que c'est elle qui a permis l'IVG. C'est vrai, en partie. Elle a eu le courage d'affronter toutes les réactions du gouvernement, mais c'est surtout les femmes, par leur combat, qui ont réussi et gagné la bataille.
Trop de femmes invisibilisées dans ces combats féministes, mais on a tendance à retenir les leaders aussi. C'est quelque chose d'assez généraliste.
Et c'est bien de rappeler que c'est du collectif et que c'est de la lutte globale qui amène les droits, quoi, et pas juste une sauveuse ou une porte-voix, quoi.
Et à mentionner aussi que c'était cool d'avoir des médecins aussi qui se mettaient dans l'illégalité, qui prenaient le risque d'effectuer ces avortements, sans quoi il aurait été aussi encore plus difficile de pouvoir contrer tout cela.
Et c'est marrant le stigmate sur la fille mère. Alors c'est actuellement c'est toujours mal vu, mais on a l'impression qu'à l'époque c'était encore pire au niveau de la honte pour la famille.
Est-ce qu'on se mettrait pas un petit extrait musical avant de revenir sur ce sujet d'anniversaire avec le planning familial ? Lo, tu nous as ramené plein de musique.
Ouais, carrément.
Dis-nous.
Je vous propose d'écouter Mika, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Hyper Love. Et du coup, là, j'ai sélectionné la musique Modern Times. En plus, je trouve que le titre va parfaitement avec ce dont on parlait. Les paroles, un peu moins, mais voilà, c'est chouette.
C'est le retour de Mika ou il a jamais disparu ? Parce que moi, je suis pas trop sa carrière.
Il a jamais totalement disparu, Oupsi. Mais c'est un gars qui s'éparpille beaucoup. Là, il a quand même présenté les victoires.
Ah ouais ?
Alors qu'il est en pleine tournée promotionnelle. Enfin, bon, d'accord. C'est Mika.
Un homme de multiples talents. Ok, Modern Times alors dans Daiquiri. 18h30 et vous écoutez toujours Radio Primitive et notamment cette émission Multiqueer. Daikiri, on est toujours avec le planning familial de la Marne qui nous parle de leur anniversaire, d'une exposition qui va avoir lieu tout bientôt à la cartonnerie de Reims dans l'espace du Flore, donc que vous allez tous pouvoir aller, aller voir de vos propres yeux. Mais avant cela, on en parle de cette expo et on en lit même des extraits. Alors avant qu'on se fasse Mika comme extrait musical, vous nous avez déjà fait part de deux témoignages qui touchaient au sujet de l'avortement. Et ça rejoint un autre des sujets que vous couvrez aussi avec le planning. Vous avez mis en place l'année dernière, c'est ça, je vous regarde pour validation, une cagnotte pour permettre à des gens d'aller pratiquer des IVG. Peut-être qu'on pourrait représenter un petit peu cette cagnotte pour que les gens puissent participer de nouveau et puis donner des sous-sous, quoi.
Oui. En fait, alors on a créé cette cagnotte parce que du coup, le planning familial est très étiqueté avortement. Et c'est vrai que c'est le sujet principal des personnes qui viennent nous voir. C'est le sujet sur lequel elles viennent. Et on se dit que l'avortement, il n'y a plus rien à faire parce que la loi est passée, etc. C'est plus comme à l'époque où, comme on a pu entendre dans les témoignages, les gens avortaient dans leur cuisine, etc. Et bon, certes, mais il reste encore des difficultés pour l'accès à l'avortement. Notamment dans les milieux ruraux où les centres, les maternités ferment, et si les maternités ferment, les centres d'avortement ferment parce qu'ils sont reliés, et où il faut donc parfois faire des heures de route avant de pouvoir avoir accès à l'avortement. Donc il y a toujours des difficultés d'accès à ce droit qui est pourtant fondamental et qui est rentré dans la Constitution. Et un autre problème aussi avec l'avortement, c'est les délais. C'est-à-dire qu'en France, on peut avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse, alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle recommande l'avortement jusqu'à 22 semaines. Donc on est en dessous des délais recommandés. Et il y a certains pays qui, eux, suivent ces recommandations, comme les Pays-Bas, par exemple, ou l'Espagne, et qui peuvent aller jusqu'à 22 semaines de grossesse pour l'avortement. Et ça, du coup, ça fait qu'il y a, certaines personnes en France qui ont dépassé le délai des 14 semaines et qui souhaitent recourir à l'IVG, mais qui ne peuvent pas parce que c'est interdit sur notre territoire et qui doivent donc voyager soit aux Pays-Bas ou soit en Espagne. Et,
en Angleterre.
En Angleterre, effectivement, aussi. Et ça, ça a forcément un coût. Ça a le coût de l'acte en lui-même qui a à peu près 1 000-1 200 euros, plus le coût du transport, le coût de l'hébergement. Et si la personne elle a déjà des enfants, il faut faire garder les enfants. Si elle travaille, il y a un arrêt de travail qui doit être posé avec la carence, la sécurité sociale, etc. Donc au final, un avortement à l'étranger, c'est entre 1 500 et 2 000 euros minimum.
Par personne ?
Par personne, ouais.
C'est énorme, c'est énorme. Je ne sais pas si les gens se rendent compte en fait de l'investissement financier, humain que ça nécessite, parce qu'il faut le temps, prévoir les rendez-vous, prévoir le voyage, comme tu disais. Et donc, pour pallier à ça, vous avez mis en place une cagnotte.
C'est ça. Et du coup, nous, au planning, en fait, on voudrait que chaque personne puisse disposer librement de son corps et que chaque personne puisse avorter si elle le souhaite, sans que le facteur financier soit un frein. Donc, on a mis en place en 2024, je crois, une cagnotte de solidarité pour justement aider les personnes qui souhaitent avorter à l'étranger à pouvoir financer l'opération, le transport, l'hébergement, etc.
C'est une cagnotte permanente, on est d'accord. Les gens peuvent participer à n'importe quel moment.
Oui. Tout à fait, il y a le lien sur nos réseaux sociaux et on peut, enfin lors d'événements par exemple, cette fameuse exposition pour nos 70 ans, partout où on est en fait on peut laisser la cagnotte.
Vous pouvez le faire tout de suite en nous écoutant si vous voulez.
Pardon ?
Vous pouvez le faire tout de suite en nous écoutant pendant, si vous voulez.
Oui.
Parce que chaque don compte.
Le lien on le trouve où ? Sur le Facebook du planning familial, pour citer un réseau social par exemple.
C'est ça, Facebook, Instagram, et notre cagnotte elle est sur Hello Asso. Donc ça veut dire que le don que vous donnez, on le récolte à 100%, il n'y a pas de commission qui est prise par Hello Asso. Donc ça c'est aussi important à dire, c'est-à-dire que si vous donnez 1 euro, on reçoit 1 euro, on ne reçoit pas que la moitié ou 75%, ce genre de choses.
Et il n'y a pas de petits gestes. Chaque geste, plus chaque geste, plus chaque geste, eh bien, ça permettra à des gens de pouvoir effectuer ces avortements. Donc, quand il y a un mois où c'est un petit peu plus facile, n'hésitez pas à penser à cette cagnotte et à participer. Ensemble, on est plus forts. Donc voilà, on peut s'entraider. Et c'est ça, le principe de l'entraide. Ça, c'est trop rare en ce moment, je trouve, ce principe de solidarité et d'entraide. Donc merci le planning familial de mettre cette petite cagnotte encore au goût du jour. On en a profité donc pour reparler de cette cagnotte, mais revenons s'il vous plaît sur cette belle exposition que vous nous préparez à la cartonnerie qui, on le rappelle, est constituée de témoignages de personnes qui vous ont raconté leur expérience au sujet des féminismes et ce que ça a apporté dans leur vie. Est-ce que on est prêt à écouter un nouveau témoignage ?
Alors, moi, je vais vous lire le témoignage de Nadia, 38 ans, qui est un témoignage un peu dur, mais très, très émouvant. Donc, merci Nadia. Alors, je suis restée 10 ans avec cet homme, 7 ans de mariage, des souvenirs, des projets, des sentiments encore présents aujourd'hui. Et puis un jour, il y a eu un geste de trop, une seule fois. Pas des années de coups, pas des violences répétées, pas l'enfer quotidien que l'on imagine, non. Une seule violence. Et ça a suffi, parce que j'ai compris quelque chose que beaucoup de femmes comprennent trop tard. Un homme qui franchit cette limite une fois a déjà prouvé qu'il en était capable. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas la colère, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la fatigue, c'est un passage à l'acte. Et quand cette barrière tombe une fois, elle peut retomber. Plus fort, plus vite, plus grave, parfois jusqu'au féminicide. Je ne voulais pas attendre la deuxième fois, je ne voulais pas devenir une statistique, je ne voulais pas apprendre à pardonner l'impardonnable, alors je suis partie. Avec le cœur encore attaché, avec les larmes, avec les souvenirs, avec la peur de recommencer une vie, mais surtout avec une certitude, ma vie vaut plus que mon histoire d'amour. Aujourd'hui, je suis en instance de divorce, et pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Libre de ma vie, libre de mes choix, libre de ne plus tomber, ni trembler. Ce témoignage, je l'écris pour toutes celles qui hésitent encore. On nous apprend à pardonner, à comprendre, à excuser, à minimiser, mais on ne nous apprend pas ceci. Une seule fois suffit pour partir. Tu n'as pas besoin d'attendre pire pour te sauver, tu n'as pas besoin de preuves supplémentaires, tu n'as pas besoin d'une deuxième violence pour être légitime, tu as le droit de dire stop dès la première, parce que parfois, partir après une seule fois, c'est justement ce qui te permet de rester en vie.
Oui, c'est beau.
J'avais coupé nos micros, désolé. Merci beaucoup pour ce nouveau témoignage assez poignant et ce qui montre bien, je pense, l'intérêt aussi de cette exposition et de cet aspect témoignage, que on peut se reconnaître dans l'histoire des autres, et c'est ça aussi qui permet des fois de passer le cap, de prendre une décision, c'est de voir que cette situation n'est pas la seule ou personne à la vivre. Merci pour ce nouveau témoignage. Je vous propose qu'on en lise encore avant de se refaire une petite pause musicale, puisque c'est des situations quand même assez lourdes, donc je pense qu'il faut aérer un petit peu tout cela. Donc si vous avez un nouveau témoignage...
Sur le travail ?
Ouais.
Ouais.
Maryse, 75 ans. À travail égal, salaire égal. Juillet 1965, coopérative fruitière en Ardèche. J'ai 15 ans. Première embauche pour 3 semaines. Face à face, Robert et moi trions et calibrons des fruits. L'ambiance est agréable et nous découvrons le monde ouvrier. Payé à la semaine, en liquide, une enveloppe est remise individuellement par le comptable de l'établissement. L'excitation d'un premier salaire est présente. Robert est appelé avant moi, c'est par ordre alphabétique. Et ensemble, nous découvrons la somme. Enfin mon tour, voilà Maryse. Sidération puis incompréhension se mêlent. La somme est inférieure. Une erreur qui signifie immédiatement une visite chez le comptable. Mais que se passe-t-il? J'ai moins que Robert. Eh ma cocotte, les femmes sont moins payées que les hommes. Mais on faisait le même travail. C'est légal, c'est comme ça. Premier sentiment d'injustice concernant le travail des femmes. Première prise de conscience de la place des femmes dans le monde privé, la fonction publique ayant déjà accordé l'égalité salariale entre hommes et femmes. 2026, la lutte continue, car elle n'est toujours pas gagnée.
Eh oui, des écarts quantifiés, hein, je crois, selon les domaines qui sont maintenant comptabilisés en pourcentage.
Oui, c'est 25% en moyenne de décalage, et quel soit le milieu de travail, quoi. Mais c'est interdit par la loi, mais c'est une sorte de non-dit parce que...
Faut connaître la fiche de paye de ses collègues. C'est ce qui n'est pas forcément évident comme information à obtenir. Puis après, il faut oser aller voir son patron et dire « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, donc je pense que il y a plusieurs facteurs qui se jouent là. Je prends la main sur la musique.
Vas-y.
J'attendais ta validation quand même. Avec un nouvel EP de Kiddy Smile qui s'appelle Repris de Justesse. Il faut toujours compter sur Kiddy Smile pour les bons jeux de mots. Kiddy Smile qui est performeur, danseur, chanteur.
Artiste.
Artiste. Voilà, appelons-le Couleur. Artiste. parce que je commençais à imaginer, enfin, à faire la liste, et c'est vrai que c'est un peu trop long, t'as raison. Donc, je vous propose d'écouter un extrait de ce nouvel EP Repris de Justesse. Bien évidemment, vous pouvez aller découvrir le reste. Il y a plein de choses qui ont été clippées où il danse, il ondule en arrière-plan de ses musiques. Ça passe bien, c'est du Kiddy Smile, quoi. Je me rappelle plus parce que là c'est une abréviation de lettres, enfin un enchaînement de lettres, mais ça veut dire quelque chose et je crois qu'il le dit pendant le morceau, donc je vous dirai le nom du morceau certainement après l'écoute de celui-ci, mais on écoute Kiddy Smile sur la prime.
Oh,
J'essaie de trouver la raison avant que la vie reprenne. Médite, t'es loin des saisons, tes folies par centaines. J'écris, repars en session, les hauts, les bas m'entraînent. J'ai su gérer la pression, mais là n'est pas la question. Tu m'ignores mais toi-même tu sais, en face c'est pas la même. Animé par les regrets, tu me fais de la peine. Solo j'suis dans la maison, et dans mon cœur il neige. Amour et désillusion, on s'oublie ou on s'aime. Je sens comme plongé dans le noir. On décolle, on atterrit, on bataille puis on périt. Une lueur derrière ton regard. Je me demande si tu m'évites, est-ce que je te mérite? Laisse-moi. Je sais plus quoi faire, c'est pas l'histoire qui se répète, mais tes manières. Je me souviens, hier à peine, cet échange qu'on s'est offert. Des mots doux quand on est seul devant les regards, tu me fais la guerre. J'ai déjà perdu mes repères, j'ai la poitrine qui se resserre. J'ai les codes, j'ai la vision, j'espère un jour que tu comprennes. Qu'est-ce que tu vas faire, je sais pas répondre, t'as l'incertitude dans les veines. Tu tournes en rond sans décision, je connais déjà ta version. Pas un bruit, pas un son, pas un oui, même pas un non. Je sens comme plongé dans le noir. On décolle, on atterrit, on bataille puis on périt. Une lueur derrière ton regard. Je me demande si tu m'évites, est-ce que je te mérite? Laisse-moi.
C'est un vrai master, donc ça va jusqu'au bout des 30 secondes quand je dis qu'il reste 30 secondes. On est toujours sur Radio Primitive dans l'émission Daikiri en compagnie d'une partie de l'équipe du planning familial de la Marne, et on est toujours sur la lecture de témoignages qui feront partie de votre exposition. Alors, chers auditeurices, vous n'allez rien manquer de l'expo si vous entendez ces témoignages. Sachez qu'on vous a quand même dit qu'il y en a plein, donc même si vous en entendez quelques-uns sur les ondes, ce n'est pas une raison pour ne pas aller voir l'exposition qui se déroulera au Flore de la Cartonnerie à partir du mois de mars. Et bien sûr, d'aller la revoir dans tous les lieux où elle se reposera ses valises, j'allais dire, mais c'est une exposition, c'est pas une personne.
Et si vous êtes une structure et que vous voulez inviter, n'hésitez pas à contacter le planning familial aussi. Hein.
Évidemment. On se disait qu'on se laisserait bien la place encore pour un témoignage ou deux. Donc je vous laisse la main.
Alors je vais vous lire le témoignage d'Alice, 26 ans. Je n'étais pas vraiment prête la première fois que le féminisme a croisé ma route. Aussi, j'ai attendu encore quelques années avant de l'accueillir dans ma vie. Parce qu'une fois devenue féministe, c'est comme mettre des lunettes à ta vue. Une fois chaussée, elles changent ta vision des films que tu vas voir, des relations sexo-affectives que tu vis, des discussions que tu vas tenir avec tes grands-parents. Pour moi, le féminisme, ça a été la pilule rouge que Neo choisit dans Matrix, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la façon dont le monde fonctionne et comment cela se matérialise dans mon quotidien. Je fais aussi partie d'une génération où le féminisme résonne directement avec MeToo, et mon engagement est indissociable d'un combat pour la liberté des corps et des sexualités, et pour la fin de la culture du viol. Enfin, je me sens héritière des grandes batailles menées par les générations précédentes, qui nous servent tous les jours. Et contrairement à il y a 15 ans, être féministe n'est plus un tabou, n'est plus un synonyme galvaudé des fémènes. La route est encore longue, mais en chemin, j'ai hâte de partager cette pilule rouge avec vous.
C'est beau de voir quelqu'un qui a compris Matrix, pas comme les incels.
Je ne comprends même pas cette remarque.
Ah oui, tu l'as jamais vue.
Au-delà de cette question, oui, je vois tes yeux, que les auditeuristes ne voient pas. Ça nous permet de parler d'engagement, parce que dans ce témoignage, on parle de lutte, d'engagement militant aussi, et il faut poursuivre l'engagement. Et du coup, l'engagement peut avoir lieu au planning familial, on peut rejoindre vos équipes. En plus, les auditeuristes, vous avez entendu, ils sont sympas, alors faut y aller. Comment on fait pour rejoindre le planning familial et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que souvent, les gens, ils ont peur de s'engager. Ils ne savent pas trop ce qu'ils peuvent apporter dans une asso. Qu'est-ce qu'on peut faire au planning familial?
Apporter sa bonne humeur.
Rien que ça, déjà?
Il n'y a pas que ça.
Non, on peut faire plein de choses merveilleuses au planning familial parce qu'on est les meilleurs, tout simplement.
Yeah.
Donc, c'est pour ça qu'il faut nous rejoindre. Donc, pour les personnes qui veulent nous rejoindre, il n'y a pas forcément de prérequis, si ce n'est d'être féministe, un minimum quand même.
De gauche.
Ouais.
Parce que faire gaffe avec les féministes de droite.
Oui, en ce moment, c'est un peu...
Ça pullule.
On voit que ce n'est pas le moment.
Mais non, on ne tombe pas dans le fémonationalisme quand même.
Big up.
Donc oui, si vous voulez nous rejoindre, faut juste nous contacter, soit si on se rencontre sur place, soit sur les réseaux sociaux ou par mail, éventuellement. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses, en fait, ça va dépendre de ce que les personnes se sentent capables de faire. On peut, comme là, par exemple, cette exposition, elle a été organisée majoritairement grâce aux bénévoles qui ont tout mis en place, qui ont trouvé le lieu, la date, qui gèrent les impressions, la mise en page, l'envoi des invitations, etc. Et c'est quand même un gros travail, donc merci à l'équipe bénévole du planning d'avoir organisé ça. Et puis il y a plein de choses à faire, parfois ça peut être pour la cagnotte IVG, par exemple, dont on parlait juste avant, pour favoriser les dons, on vend souvent des petits bracelets avec des messages féministes et parfois humoristiques, selon qui fait le bracelet. Et ça peut être une activité, par exemple, de faire des choses comme ça qui peuvent être destinées à récolter des dons. Et voilà, il y a plein de choses à faire. Et après, on peut se former en interne aussi pour les permanences individuelles dont je parlais au tout début, en co-formation. En fait, on est vraiment sur l'éducation populaire, donc... C'est apprendre les unes des autres, les uns les autres, les unes des autres. Et voilà.
Bah ouais, et déjà, ça sera un bel engagement. Et c'est nécessaire parce que, comme toute association, il y a aussi des réalités financières qui ne sont pas évidentes, je suppose, pour le planning familial.
Oui, exactement. Et ça nous touche nationalement. Dans la Marne, pour le moment, ça va, je touche du bois. Mais dans la Drôme, par exemple, les baisses de financement ont été telles qu'il y a 7 centres de santé sexuelle qui ont fermé. Donc ça veut dire 7 centres où on ne peut plus avoir la contraception gratuitement, où on ne peut plus avorter, où on n'est plus accueilli de manière correcte. Et ça, c'est dramatique parce que ça veut dire que les personnes qui veulent recourir à leurs droits, les droits reproductifs, doivent parcourir encore plus de routes, doivent payer plus cher, etc. Et la baisse des financements, ça touche ça. Et ça touche aussi nos missions d'éducation qu'on fait dans les collèges et les lycées. Alors que si on veut éliminer les violences, ça commence aussi par l'éducation. Et si on n'a plus les moyens de faire ça, c'est...
Ouais, c'est essentiel votre travail. Je crois que d'ailleurs, vous vouliez terminer sur deux lignes d'un témoignage qui était un petit peu spécial.
Tout à fait. On remercie Vaya qui a 20 ans et qui, en deux lignes, dit quelque chose de très fort. Le féminisme m'a permis de donner tort à ma mère, féministe elle-même, qui ne voulait pas que je me teigne les cheveux en noir. Mon corps, mon choix, comme elle me l'a appris.
Eh ben, comme quoi. C'est vrai qu'entre générations, des fois, on ne se comprend pas bien, hein, mais il y a des féminismes et on peut tout à fait apprendre les unes des autres. Merci encore à vous d'être venu nous présenter vos missions, l'exposition. Les infos, on les trouve où? Si on a besoin de revoir des détails par rapport à ce que vous allez faire dans les prochains mois?
Alors, sur Instagram, Planning Familial 51, sur Facebook, Planning Familial de la Marne, ou en venant physiquement à la Maison de la Vie Associative qui est rue du Barbâtre.
À Reims?
à Reims, merci, ou encore par mail.
Ben oui, si on n'ose pas, on peut toujours déjà envoyer un petit mail.
Et le planning fait partie aussi de la coordination féministe Reims et alentour, je crois.
Tout à fait, qui organisera par ailleurs une manifestation, il me semble... Juste
qu'on va voir dans l'agenda, c'est ça?
Oui. Je crois qu'elle est dite dans l'agenda.
Oui, oui. Attendez, jingle. J'ai pas mis le jingle agenda parce que c'est beaucoup trop long. Ouais. On a toujours parfait ce jingle-là. On a du travail en retard chez nous aussi. Agenda des rencontres, agenda de ce qui se passe en local.
Alors si on essaie de faire dans l'ordre chronologique... Je pense.
Ben, on va vite arriver sur le 7 mars.
Ouais, c'est ça. Mais avant, donc il y a. Bon, putain, on va faire quand même une petite pub pour le Pop Woman Festival.
Non.
Qui se déroule le 6, 7 et. Non, le 5, 6 et 7
mars.
Alors, parce que déjà, il y a Alison Bechdel qui vient, donc c'est quand même un truc un peu cool. Il y a toujours Ovidie. Bon, après, on retrouve un peu les mêmes. Mais bon, si ça vous tente.
Mais c'est pour celles qui n'avaient pas la thune l'année dernière, qui ne l'ont toujours pas cette année, pour se dire le seum, j'ai pas de thune, donc après, je ne peux pas aller à des trucs féministes.
Pour moi, c'est déjà, ils ne disent pas féministe, mais c'est une sorte de festival de la BD féminine. Voilà, si,
mais en même temps, la chef était à Angoulême avant, donc elle perd pas.
Et je crois qu'elle ne disait pas trop de trucs quand il y avait des choses crades qui se passaient là-bas. Enfin, bref.
Après, si vous y allez, n'hésitez pas à faire de la pub. Pour la manif, en fait.
Bah ouais. Exactement. J'avais cru que t'allais dire de la pub pour Daiquiri. J'étais là, ouais.
Aussi, aussi.
On s'emballe. La manif. Alors, attendez, parce qu'il y a quand même plusieurs concerts dans le cadre de ce Pop Woman Festival qui valent quand même le coup. Moi, mon credo, c'est la musique. Il y a Léonie Pernet qui vient. Elle vient de Chalon, à la base. Aujourd'hui, c'est une resta. Si vous avez l'occasion d'aller à son concert, elle écrit très bien. Ses chansons sont magnifiques.
Je peux refaire la blague de l'eau qu'on avait loupée la fois où elle l'avait fait en disant qu'elle n'est pas des Pernay.
Ah oui, Léonie Pernay. C'est vrai qu'elle était bonne, cette blague.
Je l'ai entendue quand on a réécouté le podcast.
En tout cas, ça fait quasiment 10 ans qu'elle n'est pas venue à Reims se produire. C'est gros nom maintenant de la chanson.
Il y a Mickey avec, et Mickey, c'est bien
Mickey,
aussi.
Mickey,
ouais. Moi, j'aime bien.
Tout à fait, c'est pour les Jones, ça. C'est le même jour. Donc du coup, tu ne peux pas voir l'un et l'autre, il faut choisir. C'est le même jour en même temps.
En même temps.
Oui, bah si, dans deux salles différentes, je pense, de la cartonnerie.
Ah, pour moi, c'est l'une qui fait la première partie, l'autre la deuxième partie. Hein.
Non, parce que moi, je fais gagner des places pour pas la même. Donc, ouais, tu vois, c'est. Bon, c'est le Pop Woman, quoi. Ouais. En dehors de cela, après le 5, le 6, tout ça, il y a quand même la manif du 7 mars.
Qui se déroulera
à partir de.
14h.
Ouais, 14h.
Non, pas du tout.
Non.
L'organisation n'est pas finalisée.
Sauf qu'on pourra pas le dire dans le prochain
d'ailleurs. Moi, les infos, c'est 14h le 7 mars, peut-être devant la mairie de Reims si les autorisations préfectorales sont acceptées. Mais bon, il y aura peut-être suivi la corde féministe, mais normalement.
Voilà, coordination féministe Reims alentour pour avoir toutes les informations. Voilà, par rapport à cette première journée de manifestation. Puis après, on ira chez nos amis des Ardennes.
Oui, chez Josette, qui a besoin de thunes en ce moment. Donc,
oui, déjà chez Josette, mais c'est nous toutes Ardennes qui organisent, c'est pas Josette qui organise.
Enfin, c'est dans les lieux de chez Josette.
Ça commence par une conférence chez Josette, à 11h. Impact des violences conjugales sur les enfants, une conférence que donne notre amie Catherine, on lui fait des bisous.
Qu'on avait reçue à Daiquiri.
Tout à fait. Et puis à 14h, une marche qui partira de l'hôtel de ville. Donc là, ça sera le jour même, le dimanche 8 mars. Et puis, un petit peu après ça, il y a encore des concerts. Il y a Théa qui vient se produire à la Carto. Oui. Ça aussi, c'est de la musique de Jones.
De l'hyperpop, trop bien.
Voilà, venez voir, ça vaut le détour.
Il n'y aura que des queers, j'espère.
Je pense qu'il n'y aura que des queers, de toute façon.
L'OST sera présente.
On devrait avoir un stand.
Génial, et l'organisation Solidarité Trans, à la radio les termes, les acronymes, parce que
et
sinon
on aura peut-être un interview, on ne sait pas, bon, ça sera la surprise.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et puis, finissons bien avec quelqu'un qui vient régulièrement dans Daiquiri, c'est la chorégraphe Marinette Dozeville qui est de retour par chez nous à Reims pour nous présenter un nouveau spectacle. Alors elle est féministe, full féministe, ses spectacles le sont à chaque fois, et là elle nous présentera Études pour Chevalier, je crois, chevalière peut-être.
Chevalière. Ouais.
Chevalière. Les 18, 19 et 20 mars dans la salle du Cellier. Donc on vous conseille de venir voir les spectacles de Marinette. C'est toujours de qualité, ça permet de réfléchir et de boire un coup après. Non ? Pour certains, certaines.
Oui, ça va.
On se quitte en musique ? On s'était mis un petit TA, justement.
Ah, avant, peut-être un petit rappel, comme tu disais, des activités du planning.
Ouais.
Avec les Feminist Club qui se déroulent tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Alors des fois, ça change à cause des vacances, mais normalement, en mars, ce sera bien le troisième vendredi de...
Oui, premièrement, fin février, il y a un atelier collage artistique pancarte.
Donc ça, c'est le 28.
Ouais, et ça permet justement de préparer les pancartes pour la manif, pour faire des jolies choses avec des thèmes.
Venez, on a des paillettes.
Ah ouais, voilà. Si t'écris bien, avec un feutre, viens, s'il te plaît.
On a des feutres aussi.
Waouh.
Et on a du scotch rose et violet.
Waouh. Et là, ça, si vous venez pas... En plus, je sais que généralement, il y a glouglou et miam miam, voilà.
Donc, on a du chocolat.
Je vous ai dit juste avant qu'on était les meilleurs, donc
fait, ça se rejoint.
Donc oui, cet atelier pancarte. Le 10 mars, du coup, le vernissage de notre expo à la cartonnerie.
Venez aussi.
Et le Féministe Club, du coup, qui est un club de lecture revisité parce qu'on peut présenter autre chose que des lectures féministes en mars.
Œuvre culturelle.
Exactement.
Donc le
Et
20
ce
mars.
Sera comme thématique
sur les 70 ans du planning, justement.
Oh,
comme par hasard.
Super, super. Merci encore le planning familial. Allez suivre le planning familial. Engagez-vous au planning familial. Et nous, on se retrouve le mois prochain sur Radio Primitive avec peut-être d'autres invités. On est tellement préparés qu'on ne sait jamais.
Surprise.
Ouais. À dans un mois sur les ondes.
Ouais, on finit.
Bisous.
À bientôt.
Hey, kid. It's all my fault. I tried to stop thinking that, but I can't. She keeps driving away.
Call the police and send them to my house.
J'ai essayé avec la drogue, j'ai essayé avec le psy, j'ai tout arrêté, tout repris. Putain, y'a rien à faire. Je crois que ça quittera jamais mon corps. Comme les tatous que mon ex m'a fait. C'est pas juste mais c'est la vie. Putain, y'a rien à faire. J'essaierai encore et encore. Je ferai tout comme je te l'ai promis. Et des fois je me dis que tout est mort. Et moi aussi. Mais mon cœur bat toujours plus fort. À faire exploser ma poitrine quand les cachets font plus effet. Putain, y'a rien à faire.
Y'a rien à faire.
C'est bloqué au fond de ma gorge, comme un appel à l'aide. Je suis que le reflet de mon époque, le ciel est moche et moi aussi. Je voulais faire sauter mon école,
vite aller la garder. Je t'aime encore, rien n'a bougé depuis que t'es parti. Ma chambre est toujours en bordel, mon cœur est dry. Pourtant je pleure toujours plus fort à m'en décoller la rétine. Je te promets que je ferai des efforts et s'il y a rien à faire. J'essaierai encore et encore. Et s'il y a rien à faire. J'essaierai encore. Mais des fois je me dis que tout est mort et qu'il y a rien à faire. J'ai tout essayé, tout tenté, putain, y'a rien à faire.